Épisode 2, Francisco Serrao.
Ang Kapitan General ay si Fernão de Magalhães, isang maginoong Portugues at pinuno sa Orden de Santiago de la Estrada na nakapaglayag na ng ilang ulit sa lawak ng...
La squadra di Magellao era precisamente costituita dalla Trinidad, nave capitana di 110 tonnellate, la Sant'Antonio di 140...
Je te recommande, avant d'entreprendre quoi que ce soit, de consulter la précieuse bibliothèque de la Casa da India, où tu trouveras documents, témoignages, cartes et archives. Tu y rencontreras Ruy Faleiro, le plus grand des cartographes, qui, comme toi, a subi de nombreux revers. C'est un immense savant. Il n'a découvert pas moins de 4 méthodes de calcul permettant de déterminer la longitude de n'importe quel point du monde. Mais à quoi bon? Méprisé de tous, il se morfond. Il recevra ton projet avec l'enthousiasme du damné recouvrant sa liberté.
Mon ami, suivant ton conseil, je me suis rendu à la Casa da Andida Guinea, à Lisbonne. J'y ai rencontré ton Ruy Faleiro. Il a subi des injustices dont la rigueur a quelque peu consolé mes propres déboires. Toutes ses cartes, toutes ses études sont reléguées dans de poussiéreuses armoires. Non content d'ignorer ses travaux, on l'a menacé d'emprisonnement. S'il en divulguait la moindre esquisse, ses connaissances sont si précieuses que je ne consentirais à aucun prix qu'il reste au Portugal, à moins qu'il me remette tous les livres et tous les renseignements de sa science. Il m'exposait les problèmes politiques que pose la cartographie, m'éclairant sur une question dont j'ignorais tout. As-tu jamais entendu parler du traité de Tordesillas? Lors de mes recherches à la Casa da India, j'ai découvert une carte, tracée par le cosmographe Martin Behem en 1492, il configure la Terre comme une continuité circulaire. Au Ponant, il trace une encoche au sud du Brésil. C'est de toute évidence un passage qui permet de rejoindre les Moluques. Je me suis entretenu avec ce Behem. C'est un vieil homme très savant. Comment a-t-il pu, sans quitter sa table d'études, pénétrer les secrets de la géographie céleste? Connaissant ma disgrâce, car n'ignorant lui-même rien de cet état, il m'a pris en sympathie et m'a montré en grande confidence un livre saint de sa religion dont il m'a traduit le passage dans lequel un érudit de son peuple, il tient pour prophète, écrit que la terre non seulement est ronde, mais qu'elle tourne. Ce livre dit que certains de ses habitants se trouvent dessus, certains autres dessous. Ce savant affirme que de là vient qu'il y ait certaines régions sur la terre où il fait nuit justement quand, en d'autres régions, il fait jour, de sorte que certains hommes jouissent de la lumière justement quand certains autres sont plongés dans les ténèbres. Il dit aussi qu'il existe une région où il fait constamment jour et où la nuit ne dure que fort peu de temps. BM affirme que ce qui est consigné dans ce livre ancien est exact. Ce livre s'appelle « Le livre de la splendeur ». Il contient tous les secrets de l'univers, si grands qu'ils ne sont confiés qu'aux sages. Octobre 1517, j'ai franchi la frontière espagnole. J'emportais dans mes malles le secret et la carte de Martin Behem, recopiée de mémoire. J'emmenais Enrique, mon serviteur, laissant provisoirement Ruy Faleiro à Lisbonne. Sa santé ne lui permettait pas de me suivre.
I viveri previsti per 2 anni, 21.380 libbre di biscotto insieme a molti sacchi di farina, riso e legumi. 5.700 libbre di carne di porco salata, 200 tonnellate di sardine, 984 formaggi, 450 serti, tagli e cipolle, 1.512 libbre di miele, 3.200 libbre di mandorle.
À Séville, comme à Lisbonne, il y a une maison des Indes, on l'appelle Casa de Contratación. C'est ici que se prennent toutes les décisions relatives aux nouvelles terres découvertes. Le roi d'Espagne, l'empereur Charles, n'a que 19 ans. Je vais lui demander audience. Il m'écoutera. Il m'entendra. Il...
Que tu es prompt à te fourvoyer dans une impasse. Il te faut trouver des appuis solides et sûrs. Tu dois commencer par demander aide et protection à tes amis compatriotes portugais, riches et puissants. Je te recommande Diego Barbosa. Il est installé à Séville depuis 14 ans. Il occupe l'importante fonction d'alcade de l'arsenal. Il est commandeur du prestigieux ordre de Saint-Jacques. Il te comprendra, car il est un marin expérimenté qui, dans sa jeunesse, a parcouru les mers des Indes. Son fils, Duarte, a lui aussi navigué dans ces eaux. C'est un excellent pilote. Il n'attend qu'une occasion pour repartir. Il a écrit un livre célèbre qui lui vaut une grande notoriété. Je ne doute pas que dès le premier instant, une amitié immédiate vous liera. Vous avez navigué dans les mêmes eaux, combattu aux mêmes endroits, vous vous êtes illustré sous le même ciel. La fraternité des armes est un lien de parenté sur lequel tu peux miser avec certitude.
Les portes de la maison Barbosa se sont grandes ouvertes à mon arrivée. Je suis aussitôt devenu l'ami intime de Diego Barbosa. 2 mois plus tard, j'ai épousé sa fille, Béatrice. Une femme bien plus jeune que moi, je n'irai pas jusqu'à m'illusionner que j'ai pu la séduire, mais il se pourrait que mes récits de navigateur aient enchanté son imagination. Plus particulièrement lorsque je lui ai conté qu'en ces îles, on trouvait des perles aussi grosses que des pommes. Elle apporta en dot 600 000 maravédis. Ce mariage fit de moi le gendre de l'alcade, de l'arsenal de Séville. Dès lors, je pus prétendre approcher le Conseil des Indes. Je leur ai parlé de l'or, de l'argent, des perles, des richesses, des îles Moluques. J'ai déployé tant d'arguments que les yeux des 3 magistrats de la commission des explorations se sont illuminés. Chaque fois que je prononçais les mots or, argent, bijoux, perles, diamants, l'un d'eux s'irradiait, l'autre se levait de son siège tandis que le troisième avait de sa main un geste comme si, à chacune de mes paroles, il amassait une cagnotte. Je pensais les avoir convaincus quand, après que la commission se soit retirée, j'ai appris que leur conclusion a été défavorable. Qui avaient retourné leur opinion. Le lendemain, je compris ce qui s'était passé. C'est Aranda, le directeur de la Casa de Contratación, en personne. Il désirait me rencontrer. Il feignait vouloir obtenir de moi quelques renseignements complémentaires, mais son but était clair. En tant que directeur de cette institution, il voulait se faire remettre les informations de l'expédition qu'il sabotait, tout en cherchant à se faire passer pour mon protecteur afin d'en tirer tout profit. Les richesses des Indes seraient mieux dans sa bourse que dans les coffres du trésor royal. J'ai accepté. C'était ma seule chance. Il fit venir Rui Faleiro de Lisbonne, contacta Cristóvão de Haro, un riche armateur portugais, pour monter l'opération financière. Faleiro était furieux. Il m'accusait d'avoir vendu la mèche à notre projet à des personnes qui ne manqueraient pas d'exploiter nos recherches à leur unique bénéfice. Il avait raison, mais je n'avais pas d'autre solution. Aranda était le seul, par ses puissantes relations, à pouvoir obtenir les autorisations royales. Il ne réclamait pas moins d'un 1/8 de tous les bénéfices éventuels de l'expédition sans y prendre aucune part de risque. Bien entendu, j'acceptais ce marchandage. L'essentiel était pour moi d'obtenir l'autorisation d'armer une flotte. Il fallait pour cela convaincre le conseil du roi.
Mon fils, depuis que je dirige l'arsenal de Séville, j'ai eu maintes fois l'occasion de traiter avec les illustres membres du conseil royal. Il est formé de 4 membres, dont le cardinal Adrien d'Utrecht, ami d'Erasme, qui n'entend rien ni à l'Espagne ni au Portugal. Ce flamand, issu d'une noble famille, ignore tout de la navigation. On pense qu'il sera élu pape. Y siège également Guillaume de Croix, précepteur du roi et Sauvage, le grand chancelier d'État. Ces 3 flamands nous pensent qu'aux conquêtes territoriales et aux guerres contre le roi de France, François Ier. Ils ne comprennent absolument pas comment l'on puisse s'enthousiasmer pour une expédition maritime. Par chance, ce conseil royal est présidé par le cardinal Fonseca, évêque de Burgos, seul espagnol de cette assemblée. Il est fort versé dans les affaires du Nouveau Monde. Ce cardinal a commis par le passé une lourde erreur. Il s'est opposé au projet de Christophe Colomb. Aussi, de peur de se tromper une nouvelle fois, il est devenu un défenseur ardent de toutes les expéditions. C'est lui qui soutient secrètement Hernán Cortés contre le gouverneur de Cuba, plaçant son projet de conquête et d'exploration du Yucatan directement sous l'autorité royale. Tu trouveras en lui le soutien que les trois autres membres du Conseil te refuseront. Mais sache que le cardinal ne défend aucunement ses intérêts personnels. Il est grand ennemi du Portugal et le prestige de la couronne d'Espagne est sa seule préoccupation. Il faudra que tu lui démontres quel avantage la couronne tirera de ton projet. Si l'or et l'argent écarquillent les yeux des trois flamands, l'évêque de Burgos, lui, ne sera sensible qu'à la gloire du Christ et à celle de notre roi. Tu lui parleras du traité de Tordesillas, dont les applications restent vagues. Ce traité bénéficie déjà de la bénédiction papale qui en sanctifie les résolutions. Ton expédition lui conférera la puissance de la démonstration. Une ligne a été tracée d'un pôle à l'autre, à 100 lieues à l'ouest des îles Açores et des îles du Cap-Vert. Or, le roi du Portugal, par son fameux traité, a reporté la ligne à 370 lieues à l'ouest de ces mêmes îles. Ainsi, le Brésil tombe dans le domaine du Portugal, tandis que l'Espagne peut revendiquer tout le reste de l'Amérique. Le roi de France, François Ier, en est vert de jalousie.
L'Espagne et le Portugal se partagent le monde, avec la bénédiction du pape Alexandre VI. Mais quel grand seigneur croit-il être pour prétendre gouverner l'univers? Imagine-t-il une seconde que la couronne de France, parce qu'elle se situe à l'est de leur démarcation fantaisis, tombe sous l'autorité du flamand? Que le petit héritier du duc de Bourgogne, bâtard du roi d'Espagne, possède les Flandres, le royaume de Naples et la Sardaigne passe encore? Qu'il soit le descendant des Habsbourg et laboure quelques arpents de terre au sud de l'Allemagne, je le veux bien. Mais qu'il prétende dominer la moitié de la terre, laissant l'autre à son cousin le portugais, le tout arrosé du goupillon du Saint-Père, ça non jamais! Qu'on me montre donc le testament du père Adam qui partage le monde en deux parties égales, l'une à l'Espagne, l'autre au Portugal.
Avec le déplacement de cette ligne de ce côté-ci du globe, se pose le problème de savoir comment cette ligne qui encercle le monde se comporte de l'autre côté de la planète. Si nous la poussons à l'ouest de ce côté-ci, elle se déplace à l'est de ce côté-là. Dès lors, ces îles aux épices, à qui appartiennent-elles? À l'Espagne ou au Portugal? Cette question n'est pas étrangère au cardinal Fonseca.
Hernando Magallanes, j'ai lu avec attention les rapports éclairés de mes collègues, membres du Conseil royal. Vous connaissez les Indes, vous connaissez Malacca, qui s'ouvre sur ces îles riches d'or, d'argent, de perles rares.
Le cardinal ne défend aucunement ses intérêts personnels. Si l'or et l'argent écarquillent les yeux des trois flamands, l'évêque de Burgos, lui, ne sera sensible qu'à la gloire du Christ et à celle de notre roi.
Éminence, certes je puis témoigner car j'y suis allé et j'ai vu de mes propres yeux les fabuleux trésors de Malacca. Le palais de son roi ruisselle de rivières, de diamants, les façades des chambres sont lambrissées de feuilles d'or. Au moindre rayon du soleil, tout s'illumine d'un radieux éclat. Nous emporterons dans notre voyage des milliers d'hosties. De tous ces gentils, nous ferons de bons chrétiens.
Il faudra que tu lui démontres quel avantage la couronne tirera de ton projet.
Je ne sais si je puis vous parler des cartes qui établissent qu'il existe assurément un passage au sud du Brésil permettant de rejoindre la grande mer qui s'étend de l'autre côté, donnant accès aux îles.
Croyez-vous que ma foi m'obscurcisse l'entendement au point que j'ignore les sciences?
Cela présuppose que nous acceptions que la Terre soit ronde.
Les textes les plus anciens ne s'opposent pas à cette théorie. Je crois savoir qu'en Chaldée, la chose est fort connue.
J'ai apporté ce globe terrestre. Il a été fabriqué par le savant Martin Béhem, qui, de sources certaines, a déterminé la rotondité de la Terre.
Mais quel serait, selon vous, l'intérêt de la couronne dans tout cela?
Éminence, je vous en parle en toute franchise, à vous qui êtes informé de cette vérité. Oui, la Terre est ronde, et si elle est ronde, nous pouvons en faire le tour. Voyez cette ligne qui partage le monde en deux, selon le traité de...
Le père Adam de François Ier?
Eh bien, cette ligne qui passe au large des Açores, elle se poursuit là, de l'autre côté. Et qu'avons-nous de l'autre côté ? Les îles Moluques, qui tombent dans la zone espagnole. Si nous parvenons à les localiser, Enrique, approche. Éminence, j'ai amené avec moi ce jeune homme qui répond au nom de Enrique. Il est originaire de ces îles. Il me sert et m'accompagne. Enrique, montre-toi son éminence. Avez-vous jamais vu un homme semblable ? Ses yeux de braise, sa peau de bronze. C'était un sauvage, voyez, il est devenu un excellent chrétien. Grâce à la foi en notre Seigneur, il a maintenant un caractère doux, aimable, et ne pense qu'à servir l'Église et Notre-Dame.
Vous manipulez avec aisance l'argument de la foi. Il ne vous en sera pas tenu rigueur.
Je crois sincèrement que ces hommes, vivant dans ces terres lointaines, attendent le message du Rédempteur, et si je pouvais servir l'Église.
Personne ne doute de votre ardeur à servir notre Seigneur. Je crois savoir que vos compatriotes portugais ne sont pas loin de les atteindre, ces îles fabuleuses. Et votre ambassadeur, Alvaro da Costa, n'entend pas que vous entrepreniez ce projet.
En effet, les Portugais s'en approchent, mais ils n'en ont pas trouvé le passage. Et quand l'ambassadeur Alvaro da Costa exercerait-il sur votre éminence quelque influence ?
Il y a quelques semaines encore, vous étiez qu'un petit capitaine fraîchement arrivé du Portugal, et vous voici gendre de l'alcade de l'arsenal de Séville. Vous avez été reçu en audience par le conseil royal.
Le banquier Christopher de Haro se déclare prêt à financer le projet en cas de rétraction du conseil royal.
Nous commencerons par vous accorder, à vous et à Rui Faleiro, les insignes de commandeur de l'ordre de Saint-Jacques.
Haro veut armer 5 navires et m'en confier le commandement.
Nous signerons un contrat en bonne et due forme. Le roi financera l'expédition et vous naviguerez assurément sous bannière royale.
Moi, le roi, étant donné que vous, Hernando de Magellan, chevalier natif du Portugal, et Rui Faleiro, bachelier, également natif de ce royaume, vous proposez de nous rendre un grand service dans les limites de la zone de l'océan qui nous a été attribuée en vertu du traité de Tordesillas, qui trace la ligne séparant le monde, établissant que toutes les terres se situant à l'ouest de la dite ligne relèvent de notre couronne, nous ordonnons que l'accord suivant soit conclu avec vous dans ce but. J'accorde au commandant de cette expédition un droit exclusif de navigation. 5 navires armés par la couronne seront mis à votre disposition, que vous commanderez au grade d'amiral général. Vous aurez pour mission de découvrir la route des Moluques. Et comme il ne serait pas juste que, tandis que vous irez là-bas, d'autres puissent vous nuire en faisant de même, étant donné que vous avez pris sur vous les charges de cette entreprise, c'est ma volonté, et je promets que pour les 10 années qui viennent, on ne donnera à personne la permission de prendre la même route pour faire les découvertes que vous avez projetées. Dans le cas où quelqu'un désirerait entreprendre ce voyage et nous demanderait l'autorisation, nous voulons, avant de l'accorder, vous le faire savoir, afin que dans le même laps de temps, et avec le même équipement, et autant de navires que les autres, vous puissiez l'entreprendre vous-même. En considération de leur bonne volonté et des services rendus, vous recevrez 1/20 de tous les revenus qui seront tirés des terres découvertes par l'expédition, ainsi que 2 îles, en toute propriété, au cas où vous en découvririez plus de 6. Le titre de gouverneur de ces territoires vous sera donné, et à votre mort, à vos héritiers. Vous aurez, pour vous et vos héritiers et successeurs à perpétuité, l'office d'amiral dans toutes les terres que vous découvrirez dans l'océan. Tous les navires de la couronne, sillonnant les mers, apporteront aide et protection à vos équipages.
Instructions en seront données à l'illustrissimo infante Don Fernando et à los infantes, prelados, duques, condes, marqueses, ricos homes, maestres de las órdenes, comendadores y subcomendadores, alcades, alguaciles, meriones, prebostes, regidores e otras cualesquier justicias e oficiales de todas ciudades, vías y hogares de los nuestros reinos y señoríos en todo y per todo, para ahora y para siempre.
Pour tout ce qui précède, je promets et engage mon honneur et ma parole royale que j'ordonnerai que tout soit fait ainsi qu'il a été exposé plus haut, et dans ce but, j'ai ordonné que ce contrat soit établi et signé de mon nom. Vous disposerez de 5 navires. La Trinidad, de 110 tonneaux, navire amiral que vous commanderez. Le San Antonio, de 120 tonneaux, commandé par Juan de Cartagena, nommé Veedor. La Concepción, de 90 tonneaux, commandé par Gaspar de Casada. La Victoria, de 85 tonneaux, commandant Luis de Mendoza. Et le Santiago, de 75 tonneaux, commandant Joao Serrao.
Vous embarquerez les hommes de votre choix. Et vous appareillez le 10 août 1519, après avoir juré loyauté et reçu l'étendard royal dans l'église de Santa Maria de la Victoria à Séville.
Comment ? Ce Portugais va commander une flotte espagnole ? Ce parvenu qui prétend prendre la place des plus valeureux d'entre nous.
Voyez, il porte les armes du Portugal. Il monte à bord des navires. Il se prétend amiral. Il commande, il ordonne, il soumet des Espagnols.
Il nous traite comme des esclaves.
Du calme, les amis, du calme. Ranguez vos dagues, laissez-le faire. Laissez-le croire qu'il est seul maître à bord. Obéissez-lui et dans peu de temps... Nous sommes 139 Espagnols. Moi, Don Juan de Cartagena... Veedor du roi et cousin de l'évêque de Burgos, ainsi que mes compagnons Quesada et Luis de Mendoza, capitaine de 3 des 5 navires, je vous assure que dès que nous serons en haute mer, les choses se passeront tout autrement.
C'était Magellan, le premier tour du monde, avec Dimeo Giovanni, Antonio Pigafetta, Nicolas de Gremont, Magellan, Pascal Fructus, Francisco Serrao, José Abeto Z, Enrique, Jean-Claude Saint-Loup, Diego Barbosa, Guy Passage-Luc, François Ier, Claude Calais, le cardinal Fonseca, Bruno Genon Catalo, Charles Quint, Éric Montplet, Don Juan de Cartagena, Pascal Gallo, la voix du premier matelot, Stéphane Le Tuilier, la voix du deuxième matelot,